l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Et qu'est-ce qu'on doit être bien à la place du Capitole aujourd'hui avec ce temps magnifique, le beau temps qui est là dans notre région. Et on y serait bien, David Torchella, à la place du Capitole aussi.
Mais on y serait très bien. Vous savez que sur l'esplanade du Rosaire au corps du sanctuaire, on y est pas mal non plus.
Vous devriez faire de la communication, David.
J'en reviens, tout juste. J'ai presque pris un coup de soleil.
Eh bien écoutez, mais avec vous, de toute façon, on va prendre des nouvelles du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes dans la chronique sur l'information religieuse. Et je crois que là, on a des hautes autorités qui seront à Lourdes.
Ah ben oui, la formation religieuse, elle est au cœur, puisque c'est l'assemblée plénière des évêques de France cette semaine à Lourdes. Ça démarre demain jusqu'à dimanche.
Alors, pour faire marcher Lourdes, eh bien, il faut des saisonniers, saisonnières. Effectivement, c'est un reportage qui a été fait par Isabelle Mandin. Je vous propose d'écouter la deuxième partie consacrée à ce beau reportage qu'elle a fait et qui est, je pense, encore sur la plateforme de France Télévisions, si on veut la voir, puisque c'est passé à la télévision il y a quelques jours. Et puis, dans ce magazine également, dans quelques minutes, Mathias Terrier sera dans l'émission De Passage à Lourdes avec le père Christophe Sperrissen. Vous connaissez, David ?
Ah oui, ça c'est un grand spécialiste de la pastorale du handicap qui était présent à Lourdes le 15 août.
Le 15 août dernier, voilà. Il était De Passage à Lourdes, comme on dit. Et bien voilà, il est venu dans nos studios. Juste le temps de retrouver les titres de l'actu. Et puis, David, on va parler donc des évêques de France qui se dirigent tranquillement vers la cité Maria pour ces quelques jours. Bonjour Eric.
La célèbre confiserie toulousaine Cachou-la-Jolie met fin à la production de ses emblématiques bonbons à la réglisse, et ce malgré une pétition de plus de 50 000 signatures réclamant leur retour. Espalion dans l'Aveyron organise une vaste campagne de dératisation les 1er et 2 décembre prochains, avec distribution d'appâts empoisonnés pour les habitants sur présentation d'un justificatif de domicile. Le Pic du Midi de Bigorre inaugure ses nouvelles infrastructures scientifiques, fruit de 4 ans de travaux, débutés en 2021 et menés en haute montagne à 2877 mètres d'altitude. Le département du Tarn lance début novembre un chantier de réfection complète sur la RD 964 entre la commune de Técou et la 68. Objectif, améliorer le confort et la sécurité des automobilistes. Le marathon de Toulouse a rassemblé 37 000 participants ce week-end avec les victoires d'Adrien Le Tester chez les hommes et de Salomé Lecoq chez les femmes. L'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ouvrira une nouvelle liaison vers Lisbonne avec la compagnie Volotea à partir du 6 novembre, deux fois par semaine, et ce jusqu'à fin décembre.
C'est une bonne nouvelle. Tout de suite, on va prendre la direction de Lourdes.
Présence dans la cité mariale, 96.
Et le retour de l'actualité, vous le savez, sur Présence, ce sera à 12h30. Mon cher David, une actualité qu'on aime bien prendre, c'est celle du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, chaque lundi. Et là, vous nous le disiez tout à l'heure, les évêques sont en chemin vers Lourdes.
Eh oui, ils sont en chemin, ils arrivent ce soir parce que débute dès demain matin, donc l'assemblée plénière des évêques. Vous savez que la conférence des évêques de France, elle est constituée de l'ensemble des évêques et cardinaux de France. Ils sont une centaine. Et ils se réunissent tous, deux fois par an, en assemblée plénière, en avril et en novembre. En novembre, nous y sommes. Et donc, ces rencontres de Lourdes leur permettent de réfléchir ensemble aux problématiques qui traversent l'Église et puis la société française de manière générale. Alors, à noter que cette assemblée d'automne est l'occasion d'un certain renouvellement institutionnel. C'est la première session ordinaire présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Il a été élu en avril et il a pris ses fonctions de président de la Conférence des évêques de France le 1er juillet dernier. Donc son discours d'ouverture qui est prévu demain à 15h donnera très certainement le ton des orientations de son mandat et donc il est donc à suivre. Et puis aussi, il y a aussi la participation des évêques nommés au cours de l'année 2025. Leur présence est importante, elle est essentielle aussi pour intégrer leur réalité diocésaine aux travaux et aux réflexions menées au niveau national. Vous voyez, l'assemblée plénière permet ainsi un échange, j'ai envie de dire, entre l'expérience des évêques, des anciens, et puis aussi les perspectives apportées par ces nouveaux membres ou ces membres récents, ces évêques récents. Alors, il y a évidemment plusieurs thèmes qui vont être abordés cette semaine au cours de cette assemblée plénière. Alors, on le sait déjà, les évêques traiteront notamment de l'enseignement catholique, des radios chrétiennes aussi, et dont Radio Présence fait partie, et puis également des suites qui seront données au dernier synode romain. Mais il y a véritablement trois grands temps forts. D'abord, l'œcuménisme, puisqu'un temps d'accueil est prévu dès demain matin pour le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople. C'est le patriarche orthodoxe, c'est la plus haute autorité de l'orthodoxie dans le monde. Et bien, c'est une rencontre significative qui s'inscrit dans les célébrations des 1700 ans du concile de Nicée. Voilà le premier concile œcuménique universel à la suite duquel les chrétiens ont notamment adopté le credo que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième thème important, Philippe, c'est l'écologie. Une déclaration sera faite par la conférence des responsables de culte en France, la CRCF, concernant la COP30 qui se réunit à Belém au Brésil avant la fin du mois, afin de réaffirmer, je cite, l'engagement interreligieux en faveur de la création. Et puis enfin, le dernier thème, il est incontournable, c'est la paix. L'Assemblée se terminera donc dimanche par une méditation spirituelle pour la paix avec la participation notamment de Mgr Chomaly, l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Et puis évidemment, le dimanche se termine toujours, c'est une tradition, par une messe retransmise sur France 2, le jour du Seigneur, en direct de la basilique Notre-Dame du Rosaire, avec les évêques présents dans le chœur. Autant vous dire, cher Philippe, qu'il y a quand même pas mal de choses à faire cette semaine, et donc la communauté d'accueil du sanctuaire est particulièrement mobilisée pour accueillir nos évêques.
Voilà, effectivement, nos évêques seront présents, et c'est incroyable de penser que c'est Lourdes qui est choisie chaque année pour cette grande conférence qui se déroule en deux temps maintenant.
En avril et puis en novembre. Voilà, c'est Lourdes joue un rôle important dans les décisions pour l'Église qui sont prises ici, à l'intérieur de l'hémicycle Sainte-Bernadette. Ça, c'est un lieu que les pèlerins ne voient pas toujours d'emblée en face de la grotte près de l'église Sainte-Bernadette. Voilà, il y a cet hémicycle du sanctuaire qui a été construit pour cela, et qui permet aux évêques de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Il est important aussi de leur permettre, de leur donner toutes les conditions de travail qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il y a toute une sécurisation aussi de cette partie du sanctuaire pour que les échanges puissent se faire dans un bon climat.
Sereinement.
Avec la proximité aussi de l'accueil Notre-Dame. Vous savez que les évêques sont logés à l'accueil Notre-Dame. Ils vivent vraiment aussi en immersion à l'intérieur du sanctuaire, dans cet accueil médicalisé qui accueille les personnes malades toute l'année.
Et on a eu la chance, cher David, que vous avez organisé ça bien pour le séminaire de la radio. Nous étions dans cet hémicycle où les évêques se réunissent.
C'est vrai, vous avez raison. Tous les équipes de Radio Présence, on s'est assis à la place des évêques pour l'hémicycle, le temps de nous réunir. Ah oui, c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire et d'actualité.
Et d'actualité.
En même temps.
Un grand merci à vous, David. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, parce qu'il y a toujours une actualité qui en chasse une autre.
Toujours. Je vous dirai déjà la semaine prochaine que le sanctuaire reste ouvert pendant l'hiver. Ne croyez pas que c'est fermé. On fait la bascule sur les horaires dits hors saison, mais il y a encore plein d'autres nouveautés. Et donc, je vous dirai ça lundi prochain.
Exactement, vous faites du teasing. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir tout ça. Un grand merci à vous. Et puis, moi, je vous propose de rencontrer celles qui aussi peut-être ont quitté leur emploi, les saisonniers qui vont se retrouver au chômage, le temps de retrouver jusqu'à l'année prochaine le retour, la réouverture de la saison des pèlerinages saisonnières. Deuxième partie. On a entendu la première partie la semaine dernière.
À Salis du Salat, 94.1.
La semaine dernière, nous avons déjà passé un petit moment avec vous, Isabelle Mandin, bonjour, ainsi que Cécile Durand-Mouret. On parle de votre film documentaire qui s'appelle Saisonnière, qu'on peut retrouver sur la plateforme de France Télévisions. Alors on parle, vous avez, qu'elle soit réceptionniste, vendeuse, photographe, hôtelière, vous posez un regard contemporain sur la cité de Lourdes, sur la ville de Lourdes. Saisonnière est une plongée dans la ville comme elle est rarement regardée. Nous continuons notre échange sur ce que vous avez vécu, à la fois ce que vous avez voulu montrer de cette ville si particulière. Il y a aussi, donc là c'est les deux chefs d'entreprise, et vous-même vous êtes chef d'entreprise, Cécile, et puis cette dame qui a cette pension de famille, et puis il y a deux salariés, une qui travaille dans un magasin d'objets de piété et l'autre qui est réceptionniste dans un hôtel, et on les voit dans leur quotidien aussi, c'est magnifique. Moi, celle qui m'a vraiment plu, c'est la réceptionniste. Elle parle plusieurs langues, elle explique ce qu'il y a au sanctuaire aussi. Ça aussi, c'est important, non, d'expliquer un peu ce qui s'est passé dans cette ville, raconter l'histoire de cette ville. Qu'on soit religieux ou pas religieux.
Alors, j'ai pas compris votre question, pardon.
Alors, en fait, on s'aperçoit qu'elle donne beaucoup de renseignements. Elles haranguent les gens, bien sûr, pour faire du commerce. Et puis, la réceptionniste, elle l'accueille aussi. Mais elle explique, on voit, elle explique les plans. Elle dit, voilà, vous avez rendez-vous à tel endroit. Il y a un vrai...
professionnalisme.
Professionnalisme.
C'est du professionnalisme parce que, partout où vous allez dans, et que vous avez affaire à des professionnels dans des hôtels, ils vous expliquent, ils vous montrent un plan, ils vous disent ce qu'il y a à faire. Et c'est une professionnelle. Et ça montre qu'à Lourdes, ces saisonnières sont des professionnels.
Oui. Et puis on sent que quand elle veut vendre les cierges pour faire la procession, c'est important de faire la procession mariale. Elle ne fait pas que vendre un objet à 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus que c'était le prix. On sent que c'est important que la dame elle ait ce flambeau et qu'elle aille à la procession mariale.
Bah, tout à fait, c'est ce que je voulais montrer en fait à Fabienne Capdevielle qui travaille dans le magasin où Valérie Chalier au Grand Hôtel Moderne. J'ai rencontré des personnes déjà au grand cœur et j'ai vu que dans leur métier, au-delà de ce pourquoi elles sont embauchées, il y avait une vraie qualité humaine. Moi, j'appelle ça l'empathie. Et elles le disent d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire que qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe ici et à ce que les gens viennent y chercher et y apportent. Et du coup, elles ont une grande attention à accueillir avec beaucoup de respect et beaucoup de singularité à chaque fois les personnes qui se présentent.
On voit un monsieur qui grave quelque chose sur une médaille, il pose les questions, c'est pour qui, pourquoi, que se passe-t-il, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes là, est-ce que c'est personnel, est-ce que vous venez pour quelqu'un. C'est étonnant de voir cette inquiétude, je pense qu'elle est naturelle, hein, que c'est pas forcé, quoi. Ils n'ont pas forcé le trait.
Ah, pas du tout, ouais. Non. Pas du tout. Non, non. Ben, c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est qu'on a souvent un a priori assez négatif sur certains commerces. Donc, moi, je viens de là. Donc, je le sais bien, puisque je l'ai éprouvé aussi quand j'étais enfant. Pas mal de moqueries là-dessus. Et moi, je voulais montrer que non, c'est pas... c'est plus humain que ce que beaucoup de gens pensent, en fait.
Il y a cette moquerie. Elle le dit bien, la dame qui est à l'hôtel. Elle dit, lorsque je dis que je suis réceptionniste à l'hôtel, à Lourdes... Et là, c'est parti. Et là, on est parti sur les grands clichés de Lourdes. Elle dit que c'est pas grave. Lourdes, c'est comme ailleurs. Le métier doit être fait pareil et voire encore mieux. Vous avez aimé ce genre de témoignage. Est-ce que vous avez redécouvert Lourdes différemment?
Que je raconte un peu dans le film.
Oui, vous qui l'avez quitté petite. On revient vers une pension de famille qui vous appartenait, c'est ça? Ou vous revenez avec de la nostalgie qui a été vendue mais...
Alors, c'était un hôtel qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Voilà.
D'accord.
Et qui illustre bien ce qui a pu se passer pour les Lourdaises à une certaine époque. Elle a été veuve, seule avec ses enfants. Et c'est par la solidarité qu'elle a pu accéder finalement à cet hôtel. hôtel, d'abord en gérance, et puis à force de travail et d'économie, elle a pu devenir propriétaire de ce petit hôtel, et qu'elle a eu, en fait, qu'elle a exploité jusqu'à la fin de sa vie avec ses filles qui ont pris le relais. Enfin voilà, c'est une belle histoire, et cet hôtel, en fait, était à l'abandon depuis 10 ans, et je l'ai retrouvé, voilà, et c'était symboliquement un peu fort de revenir, de faire ce chemin inverse, en fait, pour voir d'où venait ma propre famille, en tout cas du côté maternel, et puis de constater que cette histoire résonne complètement avec plein d'autres familles ici.
Ce documentaire, bien sûr, est à découvrir, hein, sur la plateforme France 3. Il y a un DVD aussi qui a été édité, qui s'appelle tout simplement Saisonnière. Hein.
Voilà, et je tenais à préciser que c'est produit par Mille et Une Films, qui est une société bretonne, et voilà, que ça a été coproduit par France 3 Occitanie.
Et France 3 Occitanie, donc c'est à découvrir encore sur la plateforme France 3, on le dit, hein, sur France Télévisions, vous tapez donc Saisonnière, et puis vous verrez, on vous proposera La France en vrai, il faut cliquer sur La France en vrai, et le documentaire démarre, il est magnifique, hein, vraiment. Quel est le retour, pour terminer, quel est le retour? Vous avez fait une avant-première, je crois, cet hiver, au cinéma Le Palais, au Palais des Congrès de Lourdes. Quel est le retour? Quels sont les retours que vous avez eus?
Alors, j'en ai eu peu, parce que ça va être à partir de maintenant. La diffusion télé qu'on va en avoir plus, j'espère. En tout cas, j'ai eu des retours très positifs de Lourdaises et de Lourdais qui m'ont dit avoir été contents et heureux de voir leur ville montrée un peu différemment, et que la parole soit donnée aussi à celles qu'on voit jamais et qui travaillent vraiment dans les coulisses de la ville.
Et vous, Cécile Durand?
Alors moi, les retours que j'ai eu peu aussi, là j'en attends, comme ça va être diffusé, j'ai des amis qui sont pas d'ici, qui vont pouvoir voir le documentaire. Sinon, ce que j'ai eu comme retour, c'est plutôt positif, parce qu'on dit les choses, effectivement, qu'on voit notre vie un petit peu de l'intérieur. C'est pas un documentaire caricatural. On voit la vraie vie des gens qui vivent, effectivement, dans un endroit particulier. Et voilà, le retour, ceux qui attendent le DVD, c'est Litz, donc qui sont filmés dans le documentaire. Je dois leur envoyer. Je verrai le retour que j'ai. Je pense qu'ils seront, contents, de toute façon. Et voilà, mais j'attends des retours maintenant avec la diffusion télé.
Comment on peut se le procurer, ce DVD, si les gens sont intéressés? Comment on peut le... Je vous pose une colle, peut-être.
Alors non, pas de colle. Il faut aller sur le site de la société Mille et Une Films. Voilà. milleetunefilms.com. Voilà. Et après, il y a tout ce qu'il faut...
Pour l'acheter, le commander et le recevoir.
Tout à fait.
Voilà. Ce film s'appelle donc produit par Mille et Une Films, Saisonnière. Et c'est vous qui l'avez réalisé, Isabelle Mandin. Qu'est-ce que vous vouliez, pour terminer juste, qu'est-ce que vous vouliez faire voir aux gens sur ce documentaire? C'était quoi le but initial? Pourquoi, là vous avez fait sur les agricultrices, là c'est sur les saisonnières, c'est important aussi des femmes un petit peu dans tous les métiers, dans tous les domaines?
Alors, je ne sais pas si je vais filmer tous les métiers. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait de montrer au travers de ce film, c'est tout simplement comment vivent des personnes dont on n'a pas connaissance, en fait, où on ne se doute pas que, voilà, dans l'ombre de quelque chose... Parce que finalement, ça peut faire écho à plein de villes touristiques où on a une image très faussée du fait de l'attrait de la ville. C'est ce que je dis à la fin du film, c'est dans l'ombre de ces endroits-là, des gens y vivent, y travaillent, et on se doute pas de ce que ces personnes traversent et rencontrent. Voilà. Et en creux, ce que j'essaye de faire, c'est démonter aussi certains a priori que certains pourraient avoir sur cette ville.
Vous avez une conclusion, mais qui vaut pour tout, hein, en disant que quand les rideaux se referment l'hiver, ou la saison est finie, ou plus calme, certaines partent chez Pôle emploi, d'autres vont aller prendre des vacances au soleil, vous l'avez dit, pour ceux qui ont les plus aisés. C'est deux mondes aussi, hein, qui se conjuguent, des plus pauvres, et puis des gens qui ont... Parce que on fait aussi de l'argent. Il y a certaines entreprises qui font de l'argent. Et vous avez ces deux mondes-là aussi que vous mettez aussi en exergue à la fin. Quand les rideaux se referment, quand les lumières s'éteignent, eh bien voilà, certains repartent à Pôle emploi, malheureusement, pour passer l'hiver et rattaquer la saison d'après.
Oui, ben, par exemple, j'ai rencontré Fabienne Capdevielle au moment du Covid, au moment de l'association des saisonniers que elle et il avaient monté en solidarité entre eux, où grâce à cette association, ils ont pu ouvrir un comptoir alimentaire, oui, pour venir en soutien des personnes qui étaient encore plus précarisées qu'elles.
Et de donner aussi des informations, hein,
voilà,
sur ce qu'elles avaient droit.
Informations. Et moi, j'ai été très touchée par cette solidarité intra-saisonnière, en fait, dans un moment critique où on entendait beaucoup de soutien et qui était nécessaire pour les employeurs, évidemment. Mais on entendait moins parler de toutes celles et ceux qui sont restés sur le carreau, faute de contrat en mars 2020, et qui, pour beaucoup, sont partis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains employeurs peuvent avoir des difficultés à trouver le personnel adéquat. Donc, les saisonnières essayent encore de se faire entendre sur les conditions de travail, sur leur précarité pour certaines et certains. Et donc, ça serait intéressant qu'il y ait un dialogue qui puisse renaître, en tout cas, entre employeurs et saisonniers sur ces questions-là.
Cécile.
Oui, et aussi ce que je voudrais quand même dire et souligner, parce que c'est important, c'est que malheureusement, les saisonniers l'hiver sont des chômeurs comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut du, oui, saisonnier. C'est-à-dire qu'il se retrouve à Pôle emploi, avec en plus des indemnités qui ont été recalculées plusieurs fois, donc j'en connais, ça a été divisé par deux. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'on a une saison qui est longue. C'est compliqué de trouver un travail entre fin octobre et début avril, qu'on est fatigué. Enfin, ils sont fatigués, ouais, moi aussi, mais moi, moi c'est différent, hein, mon statut. Et que s'ils travaillent, ça c'est normal, on leur baisse leurs indemnités, etc. Donc en gros, ils travaillent pour rien, parfois même ça leur coûte de l'argent. Ouais. Donc il n'y a pas de statut pour les saisonniers, comme pour les intermittents du spectacle, par exemple. Et donc, ce sont des chômeurs comme les autres qui doivent aller se présenter à des emplois, etc., etc. Donc, c'est double peine.
Il y a un statut peut-être particulier pour ces gens qui font la saison, hein,
ou non,
qui serait peut-être à mettre en place,
oui, parce qu'il n'existe pas. À mettre en place, oui, ce serait...
Un peu dans le système, parce que c'est vrai que lorsque, pour les journées de février, on rembauche quelqu'un,
voilà,
la personne qui va dire, ben oui, je viens aider, elle va devoir se couper de chômage, mais elle va avoir les jours de précarité, qui fait le peu qu'elle a gagné, elle le perd. En fait,
oui,
elle perd de l'argent. Ce qui paraît absolument fou. Comme, oui, si on ne pouvait pas couper pendant 3-4 jours de travail et reprendre dès le lendemain, oui, où c'est fini. Ça,
alors,
ça manquait.
Il y a ça. Et puis, il y a la personne qui, par exemple, veut aller travailler ou faire un remplacement, etc. On va l'envoyer à 40 km pour un mi-temps. Elle va devoir se payer l'essence, le parking, etc. C'est pas rentable. Donc, au bout d'un... Et ils sont obligés de répondre aux offre d'emploi. C'est ça, moi, c'est cela dont je parle. C'est-à-dire qu'un statut, pour moi, un statut des saisonniers, ce serait qu'ils aient des indemnités correctes pour vivre décemment l'hiver et qu'ils ne soient pas obligés d'aller courir après des offres d'emploi qui ne leur correspondent pas et qui leur coûtent de l'argent. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Et là, il y a quelque chose à mettre en place.
Le message toujours est lancé. J'espère qu'il retombera dans les bonnes oreilles. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on rappelle ce reportage, ce film documentaire qui s'appelle Saisonnière. Vous avez un regard différent sur Lourdes, des clichés d'habitude où on voit toujours les pèlerinages, la grotte. Là, on rentre dans le cœur, hein, de ceux qui travaillent, ceux qui tous les jours sont là pour faire que la machine elle marche, quoi. Hein. Et oui, si les gens viennent à Lourdes, il faut les accueillir, il faut les faire manger, il faut les faire dormir, et puis pour certains, les photographier pour immortaliser leur passage à Lourdes. Et particulièrement au sanctuaire, avec même des soucis.
Soucis techniques, on en a tout le temps. Surtout, moi, ce qui me tient à cœur, dans ma famille, ce qui nous a toujours tenu à cœur au travers de nos reportages, en plus de nos photos de groupe, c'est de raconter l'histoire de leur pèlerinage. Ouais. C'est d'essayer de leur raconter en images leur histoire. Et c'est extrêmement touchant quand quelqu'un vous prend une photo de reportage parce que ça lui parle, parce que c'est important pour lui, et il va repartir avec, et moi ça me touche toujours beaucoup quand on arrive justement à toucher les gens. À leur parler d'eux malgré tout.
Avec l'œil du photographe, comme on dit, hein, c'est pas nous qui faisions la photo parfaite avec nos smartphones, je pense que les smartphones, malheureusement...
Les temps changent. Comme pour les petites pensions familiales. Les temps changent et il y a des évolutions techniques contre lesquelles on ne peut rien, c'est comme ça.
Ouais,
c'est la vie qui est comme ça.
Merci à toutes les deux d'être venues nous parler. Donc, saisonnière à voir encore pendant une quinzaine
de jours. Jusqu'au 8 novembre.
Jusqu'au 8 novembre. Donc, allez sur le site donc, de France Télévisions. Et puis, je vous rappelle, vous tapez saisonnière et on va vous proposer la France en vrai. Et ça, c'est la France en vrai, effectivement. Et vous tomberez donc sur ce beau reportage. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci, Philippe.
La belle voix d'Edith Piaf à midi 24.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Bon, je dis qu'on soit plus âgé ou qu'on soit plus jeune, tout le monde connaît effectivement cette chanson, La vie en rose, de Edith Piaf.
Présence dans la cité mariale, 96.
Et c'est Mathis Santenac que nous allons retrouver pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour Mathis.
Clap de fin pour les cachous La Jaunie. La célèbre confiserie toulousaine annonce stopper la production des petits bonbons à base de réglisse, invoquant une baisse de la demande. Une pétition qui réunit plus de 50 000 signatures réclame pourtant le retour de la commercialisation, pas à l'ordre du jour selon l'actuel propriétaire. Une campagne de dératisation aura lieu à Espalion dans l'Aveyron les 1er et 2 décembre prochains. La municipalité, avec l'aide de services spécialisés, souhaite lutter contre la prolifération de ces nuisibles. Une distribution d'appâts empoisonnés sera notamment organisée le mardi 2 décembre pour les habitants. Attention, pour ceux qui souhaitent s'en procurer, il est impératif de présenter un justificatif de domicile.
Le pic du Midi de Bigorre inaugure en ce début de mois de novembre ses nouvelles infrastructures scientifiques. Ces travaux débutaient en 2021 dans des conditions extrêmes à 2877 mètres d'altitude, renforcent la capacité d'accueil et la vocation scientifique du site. L'inauguration s'est notamment déroulée en présence du préfet de région Pierre-André Durand, de la présidente de région Carole Delga et d'Odile Rosy, présidente de l'Université de Toulouse. Dans le Tarn, désormais, le département poursuit son vaste programme d'entretien et de modernisation du réseau routier départemental. Un nouveau chantier va démarrer début novembre sur la RD 964 entre le carrefour giratoire de l'autoroute A68 et le lieu-dit Le Nez sur la commune de Técou. Cette portion très empruntée par les automobilistes reliant Gaillac à Grolet va bénéficier d'une réfection complète afin d'assurer un meilleur confort et une sécurité accrue pour les usagers. 37 000 coureurs se sont élancés hier à l'assaut du marathon de Toulouse. C'est près de 30 000 concurrents de plus que pour l'édition 2024. Chez les hommes, c'est Adrien Letester qui remporte l'épreuve avec un chrono de 2h24. Du côté des femmes, Salomé Lecoq s'impose en 2h53. Direction le soleil maintenant, le petit aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées s'apprête à proposer une nouvelle liaison internationale. En effet, à partir du jeudi 6 novembre, la compagnie Volotea reliera directement Tarbes à Lisbonne deux fois par semaine, chaque jeudi et chaque dimanche. Ces vols seront assurés jusqu'à la fin du mois de décembre.
Merci beaucoup à Mathis Saint-Tenac de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse et qui va nous accompagner pendant cette saison radiophonique pour faire voilà l'actualité. Ils sont en formation, mais ils se débrouillent déjà très très bien. On les remercie. Le retour de l'actualité sur présence sera tout à l'heure à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Je vous propose de retrouver le magazine de Passage à l'Aude qui vous est présenté comme chaque semaine par Mathias Thérier.
Présence de Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Thérier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Sperrissen. Bonjour Père.
Bonjour Mathias et bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Strasbourg.
Oui.
Avec une très belle mission, deux très belles missions, il y en a sans doute d'autres, mais enfin celles qui sont les plus officielles, c'est une responsabilité au niveau de ce qu'on appelle les cours de religion dans l'enseignement public. Ça, c'est la spécificité du diocèse de Strasbourg.
C'est l'Alsace.
C'est l'Alsace. Et puis, vous avez cette magnifique mission également d'être aumônier au sein d'un centre qui héberge, accueille, accompagne, est un lieu de vie pour des personnes en situation de handicap mental.
C'est ça.
Et c'est sans doute sur cette vie-là que vous avez comme aumônier que nous allons nous arrêter le plus longuement au cours de cet entretien, car c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez la responsabilité nationale de ce qu'on appelle la pédagogie catéchétique spécialisée.
La PCS, oui.
La PCS, c'est un peu jargonnant, mais c'est en gros, ça consiste à apprendre, à comprendre les personnes qui sont fragiles, en situation de handicap, ou auxquelles il faut annoncer l'Évangile.
C'est ça. Il s'agit en fait d'accompagner les personnes qui, dans les diocèses, ont reçu une mission plus spécifique, souvent au sein d'un service de catéchèse ou au sein du service de la pastorale des personnes handicapées, la PPH. Donc d'accompagner les personnes qui rencontrent des enfants, des jeunes, des adultes en situation de handicap et soit en l'exprimant eux-mêmes, soit leur famille, eh bien leur permettre de faire un chemin de foi ou un chemin de préparation sacramentelle comme le baptême, la confirmation, la première communion, etc. Donc voilà, c'est un beau travail de rencontre depuis 6 ans dans les diocèses de France auprès de ces personnes en responsabilité ou bien lors de formations plus générales avec des catéchistes des diocèses, mais aussi donc un travail qui permet de soutenir les évêques dans leur vaste mission et notamment cette mission prioritaire d'être au service et à la rencontre des personnes en situation de handicap, des personnes marquées par la vie, des personnes en fragilité.
Vous êtes aussi auteur, compositeur. On vous doit un album récemment, un album CD chez Bayard, ADF Bayard, Chanter l'espérance.
Pèlerin d'espérance.
Pèlerin d'espérance. C'est le titre Pèlerin d'espérance, c'est pour chanter dans le cadre du jubilé.
Effectivement, voilà, avec des chants qui sont déjà connus dans le répertoire paroissial, mais aussi des créations nouvelles en collaboration avec Philippe Tailleux, qui est professeur du Conservatoire de Rouen.
Parfois, dans les milieux de la catéchèse, on parle de l'intelligence de la foi, de la compréhension. On est dans l'intellect. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Or, vous, lorsque vous devez vivre dans un milieu où il y a de la fragilité ou du handicap mental, je pense que c'est sans doute pas la première porte d'entrée que de dire « je vais expliquer ». C'est déstabilisant, non, pour le prêtre que vous êtes, ou que le jeune prêtre, peut-être, quand il a démarré dans ces univers.
Ça peut l'être, ça a pu l'être, effectivement, dans mon parcours de catéchiste et puis de prêtre catéchiste. En même temps, aujourd'hui, on insiste beaucoup dans l'activité catéchétique de l'Église sur une triangulation assez simple qui reprend une philosophie d'un pédagogue suisse, tête, cœur et main. Voilà, une catéchèse doit trianguler entre l'apport de connaissances, effectivement. En catéchèse, on apprend des choses, mais il y a deux autres pieds de ce tabouret de piano. Si on enlève un pied, il est bancal. Donc il y a effectivement l'apport de connaissances, plutôt la tête, mais il y a aussi le cœur, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur, la vie de prière, l'expérience spirituelle, le fait de permettre de découvrir les mots de la prière, l'espace prière dans le silence, dans le chant, la musique, etc. Et puis le troisième pilier, c'est les mains, c'est-à-dire une vie de foi, une catéchèse qui donne aussi lieu à une expérience de vie et qui rend les choses concrètes, tête, cœur et main. Et avec les personnes en situation de handicap, évidemment, alors moi j'ai plus une expérience avec les personnes en situation de handicap mental, la première porte d'entrée ne sera pas intellectuelle, ne sera pas la tête, ce sera effectivement le cœur et les mains. Avec les personnes en situation de handicap, on est très attentif à tout ce qui est expression corporelle, tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence de la foi par le cœur. Et donc, effectivement, la première porte d'entrée, ce sera l'expérience spirituelle. Créer des ambiances, permettre une ritualisation, par exemple, de l'expérience catéchétique, du moment catéchétique, qui va commencer par un chant, qui va se terminer par un chant, ou par un moment musical, par un moment de silence, d'expression corporelle, etc. Donc oui, il y a une pédagogie spécifique. Ouais.
Diriez-vous que votre vocation est liée à ces personnes vers lesquelles vous êtes envoyé aujourd'hui?
Je suis issu d'une famille nombreuse. Nous étions 6 frères et sœurs. Un de mes frères est déjà auprès du ciel, auprès de Marie. Mais en 1994, ma sœur aînée accouche de son 3e enfant. Et ma sœur et mon beau-frère m'annoncent « tu vas être parrain de cet enfant ». Donc l'année de mes 18 ans, c'était aussi l'année de mon premier parrainage. Et il se trouve que Sébastien naît trisomique, donc avec cette trisomie 21. Et donc la question du handicap a très vite fait partie de ma vie, de mon expérience familiale, avec ce cadeau qui m'a été fait d'être parrain de Sébastien. Et quelques années après, le papa de Sébastien va malheureusement être frappé d'un accident et sera en fauteuil roulant pendant 20 ans de sa vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque grâce à une opération, il n'a plus besoin de ce fauteuil. Mais oui, je crois que la question du handicap, elle fait partie de mon expérience. Alors, elle ne fait pas partie d'une expérience vocationnelle au départ, mais le Seigneur très vite m'a fait signe dans ce monde, ce milieu du handicap. Ouais.
Alors, aussi, à quel moment intervient la question du chant, de la musique, pour transmettre, pour vivre quelque chose d'un autre ordre que uniquement l'ordre intellectuel?
Oui, là aussi, j'ai eu cette chance de pouvoir, dans ma vallée vosgienne d'origine, pouvoir m'inscrire dans une école de musique, une petite ville de 3000 habitants. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure de musique et de solfège qui était formée dans ce que l'on appelle les pédagogies actives, et notamment la pédagogie de Karl Orff. Et j'ai pris goût à un enseignement musical qui passe par l'expression corporelle. C'est-à-dire que, voilà, dans les conservatoires, pour faire rapide, on apprend la musique avec la théorie, ensuite on applique la méthode Orff, on applique et ensuite on met la théorie. Donc j'ai grandi dans un univers musical où la place du corps et la place de l'expression corporelle a une place très importante. Et à l'âge de 18 ans, je reviens à cette année 1994, l'appel du Seigneur était là. En même temps, j'avais envie donc de me spécialiser, de faire une faculté de musicologie, mais j'ai donné priorité dans une année propédeutique au discernement vocationnel. Et j'ai entendu très vite le Seigneur me dire, ce que tu quittes là, ce domaine de la musique, du chant, qui m'était vraiment très cher, tu l'auras au centuple. Alors, petite confidence, j'arrive donc dans cette année de propédeutique et je connaissais personne. Nous étions une promotion de 18 personnes. On frappe à ma porte le deuxième jour de ma présence dans ce séminaire. Un monsieur âgé frappe donc à ma porte et me dit « Bonjour Christophe, je suis le professeur de chant de cette institution, mais on m'a découvert un problème aux cordes vocales et cette année donc je ne pourrai pas assurer la classe de chant. On a vu dans ton dossier que tu as quelques notions musicales, donc on te demande d'assurer la classe de chant. » Et voilà le Seigneur qui me rejoint à l'âge de 18 ans dans cette année de discernement propédeutique en me disant effectivement « Tu viens de faire un choix, ce ne sera pas la musicologie, ce sera le séminaire, mais on te demande d'assurer la classe de chant dans ce petit groupe de 18 propédotes. » Voilà, et ces signes du Seigneur m'ont accompagné depuis les 22 ans de ministère et tout au long de ma formation au presbytérat. Sans cesse, j'ai rencontré des personnes qui étaient sensibles à la question de la musique dans la catéchèse et dans la liturgie. Et j'ai eu donc l'occasion, notamment avec ADF Bayard et d'autres lieux, de pouvoir produire un certain nombre de chants, de CD dans le domaine de la catéchèse. Le Seigneur est bon, et Marie aussi, bien sûr.
Nous l'avons dit, vous êtes aumônier au sein d'un centre qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Vous avez écrit, en cette année jubilaire, un petit fascicule, « Chemin de croix, chemin d'espérance ». Assez difficile d'accéder à l'espérance en passant par la croix, a priori. C'est compliqué. J'imagine que vous côtoyez dans le quotidien de cette maison des gens qui ont des croix lourdes à porter, très lourdes.
Ah oui.
Le prêtre que vous êtes passe pas trop vite à l'espérance parce que sans doute que parfois c'est compliqué pour les personnes d'être tout de suite là.
Avant-hier, j'ai eu la chance de pouvoir donner un petit témoignage, une petite conférence ici à Lourdes. Et je racontais que le jour de Noël, quand je célèbre à l'institut où je suis aumônier, habituellement, le dimanche matin, il y a 50, 80, 100 personnes, donc des résidents en situation de handicap mental, mais aussi les accompagnateurs, des professionnels qui ne sont pas toujours des catholiques pratiquants, mais qui viennent pour brancarder, pour accompagner, et puis aussi quelques personnes qui viennent de l'extérieur, qui savent qu'il y a une célébration à heure fixe, et qui trouvent que l'ambiance, on y reviendra peut-être, de cette célébration est priante et leur convient. Et le jour de Noël, je me retrouve avec 15-20 personnes. Et dans ces 15-20 personnes, il y a une dizaine donc de résidents qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille. Alors soit parce que leur situation physiologique ne leur permet pas, elles sont obligées de rester au centre, soit parce que les familles ne peuvent pas les accueillir ou ne veulent pas les accueillir, où il n'y a plus de famille. Et donc je me retrouve avec le Noël dans tout ce qu'il a de véritablement de ce mystère de l'incarnation. C'est-à-dire Noël, c'est la venue de Jésus qui vient dans notre monde selon la promesse que le Père a fait d'envoyer son Fils comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais qui vient rejoindre notre humanité. C'est ça le mystère de l'incarnation, dans ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité et dans l'incarnation, mais aussi dans ce qu'il y a de plus difficile, et donc aussi dans ce mystère de la croix. Et il n'y a pas Noël sans Pâques, il n'y a pas Pâques sans Noël. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je célèbre Noël dans ce centre, je célèbre un Noël avec toute la lourdeur du mystère de la croix, de ces personnes qui sont marquées dans leur corps, dans leur être, dans leur physiologie, limitées et en même temps pleines de capacités. Et le jour de Noël, quand ils sont là, je vis quelque chose de ce mystère de Dieu qui vient les visiter, elles particulièrement. Et donc l'espérance chrétienne, ça marche toujours avec ces deux pieds. Il y a à la fois la croix et il y a à la fois la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans croix. La croix ne s'arrête pas là. Le troisième jour, il y a la résurrection. Et donc l'espérance chrétienne, elle marche toujours avec ces deux dimensions et ces deux niveaux. Alors c'est un apprentissage quotidien. Et il y a des jours où j'arrive à l'intégrer, et il y a des jours où je suis un peu à côté de la plaque. Mais les personnes en situation de handicap, elles nous rappellent ça. Elles nous rappellent que le Seigneur, il est venu, oui, à Noël pour nous sauver. Nous sauver, c'est-à-dire nous ouvrir les portes de la vie éternelle, le jour de notre mort, mais nous sauver déjà chaque jour. Et ces personnes en situation de handicap, elles sont capables de dépassement, elles sont capables d'énergie, elles sont capables d'une espérance qui, moi, m'émerveille à chaque fois. Elles sont là le dimanche, souvent 20 minutes, une demi-heure avant. Je sais pas ce qu'elles vivent dans leur cœur, je sais pas, parce que parfois elles ne peuvent pas l'exprimer. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie spirituelle, ça leur appartient évidemment, il y a cette chasteté spirituelle, mais elles sont là. Et le mystère de la croix, c'est ce mystère de l'espérance qui, grâce à ses grands frères et grandes sœurs et petits frères et petites sœurs en situation de handicap, me booste.
Nous nous arrêtons quelques instants, si vous le voulez bien, Père Christophe Périssen, et puis nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous.
Merci.
À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est le Père Christophe Périssen. On pourrait vous présenter comme musicien, auteur, compositeur. Vous êtes également responsable de cours de religion. Alors ça, c'est une spécificité de votre diocèse.
Effectivement, l'Alsace diocèse de et Strasbourg. La Moselle également.
Voilà, oui, c'est ça, l'Alsace. Votre diocèse de Strasbourg, vous êtes incardiné et prêtre diocésain dans ce diocèse, où vous y êtes aumônier au sein d'un établissement, un centre d'accueil de personnes en situation de handicap mental. Vous travaillez également pour la Conférence des évêques de France et pour l'Église de France en général. Vous visitez, nous disiez-vous, les diocèses pour accompagner tous ceux qui le souhaitent ou qui en ont besoin dans le domaine de la pédagogie catéchétique spécialisée.
C'est ça.
Annoncer l'Évangile, parler du Christ à des personnes qui ont un problème, un handicap, une fragilité. Et donc ça fait changer sans doute les habitudes, ça fait bousculer les usages, bouger les lignes. Vous êtes auteur d'un chemin de croix, chemin d'espérance, paru aux éditions du Cygne pour cette année jubilaire, et un album, un CD pour transmettre la foi par la musique, chanter l'espérance, un album qui s'intitule Pèlerin d'espérance.
C'est ça.
Que nous apprennent les personnes de notre foi qui n'ont pas les mêmes mots pour nous que nous pour le dire, parfois même pas de mots pour le dire. Ça doit être décapant, ça, cette expérience, Père.
Alors effectivement, c'est pas l'objet de l'émission, mais quand on parle du handicap, ce serait bien de s'arrêter quand même sur ce mot, en se rappelant qu'il y a un spectre immense de l'ordre du handicap. Il y a des handicaps qui se voient, d'autres qui ne se voient pas, des handicaps visibles, des handicaps invisibles. Moi, je suis plutôt en contact avec des personnes en situation de handicap mental, donc souvent ça se voit quand même, hein. C'est-à-dire des personnes trisomiques, des personnes autistes, des personnes polyhandicapées. Une de mes premières expériences, ça fait 10 ans que je suis aumônier dans ce centre, donc je commence à avoir un petit peu de bouteille. Une de mes premières expériences, c'était que ce sont des personnes sans filtre. Et ça fait du bien. Mais c'est décapant. Sans filtre, c'est-à-dire que ce qu'elles vivent, elles l'expriment. Elles l'expriment à leur manière. Alors parfois en faisant des phrases, quand c'est possible, parfois ce sont des mots. Et puis souvent avec des mots qui jaillissent de leur cœur et de leur bouche, sans autre forme de, comment je veux dire, de prudence ou de d'attention. Ce qu'elles vivent, elles l'expriment. Donc aussi bien dans la vie spirituelle. Ce qu'elles vivent avec le Christ, ce qu'elles vivent lors d'une célébration, elle l'exprime avec des mots ou avec des gestes.
Il n'y a pas de personnage social, c'est ce que vous voulez nous dire. Il n'y a pas d'oripeau.
Il n'y a pas de personnage social.
De posture.
Non. Je pense à la pub d'une chaîne de restauration. Venez comme vous êtes. Les personnes en situation de handicap, elles nous apprennent à venir comme nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu. Voilà, on est bienvenus dans cette célébration du dimanche matin. Elles expriment ce qu'elles vivent dans l'immédiateté. Je vais donner deux exemples. J'aime beaucoup dire que les personnes trisomiques, le gène supplémentaire, c'est vraiment le gène de la liturgie. Les personnes trisomiques, Sébastien, mon filleul qui a 31 ans, tout ce qu'il entreprend en termes de déplacement, de mouvement, ça prend du temps. Voilà, parce que physiologiquement, ça a besoin de entre le cerveau et le corps, ça prend du temps. Et quand il y a une inclinaison à la messe, quand il y a un geste de porter une bougie, de monter la bougie avec la parole de Dieu, avec le livre de la Bible, quand il y a une cloche à prendre en main, une clochette pour sonner le moment de la consécration, ça prend son temps. Je pense au geste de paix. À l'institut où je suis aumônier, je sais quand le geste de paix commence, mais je ne sais jamais quand il termine. Parce que il y aura Camille ou il y aura Brian qui voudra aller porter la paix, mais jusqu'au fond de la chapelle et jusqu'à la dernière personne. Et donc, en liturgie, on dit que le rite, il donne à voir ce qu'il est censé exprimer, oui. Eh bien, c'est ce que je vis le dimanche matin. Et il y a quelque chose, je crois, à la fois de modélisant et à la fois quelque chose de l'ordre de la maturité auprès des personnes en situation de handicap que, malheureusement, je ne trouve pas toujours dans les paroisses dans lesquelles je passe. C'est-à-dire que, encore une fois, on vient comme on n'est pas dévisagé de haut en bas. Voilà, tout le monde vient comme il est. Et puis, ça prend son temps. Et puis, s'il y a une partition à une voix, bah, si ça chante à sept voix, c'est pas grave. Et le rite prend son temps et la célébration prend son temps. Modélisant, l'expression immédiate. Ce qui me frappe aussi avec les personnes en situation de handicap, c'est que c'est une foi qui est de l'ordre de la créativité. Souvent, je vais avoir autour de moi des servants d'hôtel, donc adultes qui sont des personnes en situation de handicap mental, qui vont avec la bougie en main se tourner vers le tabernacle, commencer un chant parce que l'homélie leur a imprimé quelque chose et du coup qu'ils ont envie d'exprimer. Il y a une forme de spontanéité et donc de maturité qui serait chouette de trouver dans nos communautés paroissiales de manière habituelle.
On en parlera justement de la capacité aujourd'hui de l'Église à accueillir toute cette diversité de personnes telles qu'elles sont. Mais quelle est la place dans le cœur de Dieu pour ces personnes ? Est-ce que c'est une place particulière ?
Oui, c'est une place privilégiée. Quand on ouvre les évangiles, là, si les auditeurs, les auditrices ont envie de faire un petit devoir de vacances, ce serait intéressant d'ouvrir un des évangiles ou les quatre évangiles et de regarder le temps que Jésus passe auprès des personnes en situation de handicap, comme on dirait aujourd'hui. Que ce soit des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets, des paralysés. Il passe un temps fou dans les évangiles. Ce sont les préférés de Dieu, ce sont les privilégiés de Dieu. Et quand le Seigneur passe auprès de ces personnes-là, d'abord il prend le temps de les rencontrer, de les écouter, de comprendre ce qu'il se passe. Parfois il pose des gestes concrets, souvent il les guérit, mais dans cette guérison, il y a surtout une réintégration. Il les réintègre dans leur famille, il les réintègre dans la synagogue, il les réintègre dans le corps social. Et c'est le côté, pardon pour le mot, parce que c'est pas un beau mot et c'est pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient en tête maintenant. Jésus a ce côté révolutionnaire dans le sens où dans la mentalité religieuse juive qui a perduré dans la mentalité chrétienne et qui parfois dans certaines cultures est encore chrétienne, et de dire quand une personne est en situation de handicap, c'est que peut-être il y a eu un péché de sa part ou un péché de la part des parents ou de la famille ou il y a longtemps dans des générations précédentes, et Jésus vient casser ça, il vient briser cette mentalité-là, il vient réintégrer. Donc ce sont les préférés de Dieu, les préférés du Seigneur. Et Marie, évidemment, je crois que là, et c'est pour ça qu'à Lourdes, il y a ce savoir-faire et cette capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap de manière tout à fait exceptionnelle. Marie nous aide à comprendre que, à la fois, donc, nous avons à prendre soin des personnes en situation de handicap. Ça, c'est un bon début, mais ce n'est qu'un début. Les personnes en situation de handicap ont quelque chose à nous dire et à nous apprendre de l'expérience spirituelle, de la relation avec le Seigneur et de la vie en Église. Donc il ne s'agit pas seulement de prendre soin et de s'en occuper, ça c'est un bon début, mais ensuite de leur donner leur place, toute leur place, y compris, et ça c'est ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, de leur permettre d'être catéchistes. Catéchiste, c'est un très beau mot qui veut dire faire résonner la parole de Dieu. Catéchène, c'est faire résonner la parole de Dieu. Et des personnes en situation de handicap, mentales, sourdes, et toutes les formes de handicap, autistes, trisomiques, nous disent quelque chose de la parole de Dieu quand on leur permet d'être intégrés, donc ce que l'on appelle aujourd'hui, le mot m'échappe maintenant, c'est pas l'intégration, c'est... Bon, peu importe, mais en tout cas, elles nous disent quelque chose de l'expérience de foi, à condition qu'on leur donne la parole.
Diriez-vous que Lourdes est une belle mise en œuvre de ce que vous venez de dire là?
Oui, c'est plus qu'une mise en œuvre. Lourdes, il y a quelque chose de l'ordre d'une bulle spirituelle, humaine. Je suis frappé depuis 3 jours par la bienveillance de toutes les personnes. Quand on arrive à Lourdes, la première chose que l'on voit là, en entrant à droite, c'est l'office des chrétiens des personnes handicapées. Donc tout de suite, ça nous dit que là, à Lourdes, il y a une place tout à fait particulière pour les personnes en situation de handicap. Et encore une fois, il y a quelque chose de modélisant. Le pape François, dans son pontificat de 13 années, nous a rappelé les trois grandes catégories de l'expérience sociale de la vie chrétienne. Le savoir-être, le savoir-faire. Mais il nous en a rajouté une quatrième qui est le savoir-être avec. Et Lourdes est une école pour ça. Le savoir-être avec les personnes en situation de handicap. Et combien de brancardiers, je sors de la célébration de l'engagement de 28 nouvelles personnes qui acceptent donc d'entrer dans ce service, eh bien, disent, mais je suis venu au service des personnes en situation de handicap, mais waouh, qu'est-ce que j'ai reçu. Et Lourdes, c'est une école du service, c'est une école du recevoir, une école de l'expérience spirituelle auprès des personnes en situation de handicap. Je le crois vraiment. Hein.
Et vous êtes de passage à Lourdes à l'occasion du pèlerinage national de l'Assomption.
Oui.
Notre dialogue s'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Merci beaucoup, Père Christophe Spéryssen. Je rappelle qu'il y a un petit fascicule dans cette année jubilaire, Chemin de croix, chemin d'espérance, paru aux éditions du Cygne. Il y a également un CD, la transmission par la musique, par le chant. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur.
Ah oui, c'est un canal essentiel dans la catéchèse et avec les personnes en situation de handicap. La voix de la beauté.
Ouais, ouais. Paru chez ADF Bayard. C'est donc Pèlerin d'Espérance.
Tout à fait.
Là aussi. Et puis votre diocèse vous attend, puisque vous y retournez sans doute assez vite pour être notamment au milieu de ceux qui vivent dans ce centre où vous êtes aumônier, hein, personnes en situation de handicap. Et sans doute encore de nombreuses visites en France, dans les diocèses, pour accompagner les équipes dans le domaine de la pédagogie catéchétique spécialisée.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. raise me up to more than I can be.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence à Montauban 93.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Messe de suffrage ce matin pour le pape François, les cardinaux et évêques décédés au cours de l'année dans son nommé.